Les colloques du Collège de France.
Sans transition, on va passer à la communication. Sans transition aussi, parce que vous avez été aussi co-auteur, hein, vous avez beaucoup travaillé ensemble. La communication de Jan Sinowiecki. L'Indien écologique est-il une fable des Lumières, altérité et savoir autochtone sur l'environnement, donc on retrouvera ici des humains pour le coup, préexistants à l'espace. Yann est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Caen, Normandie. Il a publié sa très belle thèse « Paris en ses jardins, nature et cultures urbaines à Paris au XVIIIe siècle ». Comme tu avais d'ailleurs travaillé aussi sur le parc de Versailles, mais donc justement de ce travail sur l'environnement et sur le jardin, de cet espace aussi microcosmique. Tu élargis aujourd'hui le spectre de ton interrogation à partir justement d'une approche plus décentrée. Je vais te laisser la parole sans plus attendre, sans faire toute la bibliographie fantastique, hein, voilà, qu'il s'agit.
Alors, bien, merci infiniment aux organisateurs et aux organisatrices de ce colloque, et en particulier à Antoine Lilti et à Maxime Dutin pour l'organisation. L'Indien écologique est-il une fable des Lumières, altérité et savoir autochtone sur l'environnement ? Je voudrais commencer cette intervention par une image que vous connaissez peut-être toutes et tous, une image très connue, une image qui a beaucoup marqué l'histoire environnementale nord-américaine, celle de The Crying Indian, diffusée aux États-Unis à partir de 1971 dans le cadre d'une vaste campagne publicitaire de l'association Keep America Beautiful et d'un clip vidéo d'une minute dont vous voyez ici quelques photogrammes. Et qu'est-ce qu'on aperçoit ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? On aperçoit un autochtone parcourir des paysages souillés par les déchets de la société industrielle, avant qu'une larme ne coule lentement sur son visage. Cette image a connu une fortune absolument considérable. Elle fut reprise dans des manuels scolaires, dans la culture populaire américaine, et oui, messieurs, dames, jusque dans un épisode des Simpsons. Et elle contribua à fixer très fortement dans l'imaginaire collectif la figure de l'Indien écologique, c'est-à-dire celle d'un autochtone vivant en harmonie avec la nature et porteur d'un rapport au monde fondamentalement opposé à celui de l'Occident moderne. Or, cette représentation, il me semble, repose sur un paradoxe. D'une part, comme l'a montré d'ailleurs très justement Grégory dans un séminaire il y a quelques années au Collège des Bernardins, cette figure repose sur une dimension profondément anhistorique de l'autochtone expulsé du temps moderne, réduit, voyez, à une forme d'altérité immobile, selon ce que Johannes Fabian appelait une forme d'allochronie. D'autre part, cette campagne publicitaire avait été financée par plusieurs grandes entreprises américaines au moment où se développaient, sous le mandat de Richard Nixon, les premières mesures de réglementation contre les pollutions industrielles. Eh bien, en exaltant une sagesse écologique autochtone fondée sur les comportements individuels, elle contribuait à déplacer la responsabilité des dégradations environnementales des structures vers les conduites personnelles. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, finalement, c'est moins la question de la généalogie contemporaine de cette image que sa profondeur historique. Car la figure de l'Indien écologique ne naît pas dans l'Amérique des années 70. Elle plonge en effet ses racines dans une histoire longue des représentations de l'altérité américaine. Dès le XVIIe siècle, certains auteurs français opposent déjà les pratiques prédatrices des Européens à une forme supposée de modération autochtone. Plus encore, à partir de la fin du XVIIe siècle, plusieurs observateurs coloniaux commencent à reconnaître aux peuples autochtones des savoirs spécifiques sur les plantes, les animaux et les milieux. Ces savoirs deviennent alors progressivement pensables dans l'espace intellectuel des Lumières, même s'ils demeurent pris en étau dans des structures coloniales de domination et d'appropriation. Ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'à partir de là, s'est construite une image positive de l'Indien en harmonie avec la nature, tandis que l'Européen ou l'Américain la détruirait inexorablement. Et je rejoins Grégory sur le fait qu'il nous faut complexifier nos généalogies et nos causalités environnementales, puisque bien évidemment, il s'agit là d'une représentation d'hommes blancs, dont la matrice fut aussi la wilderness, ce terme intraductible, sinon pour désigner cette idéologie de la nature immaculée, ayant construit les États-Unis comme nation et légitimé l'idée qu'en dépit de l'antériorité de la présence des autochtones, ces premiers habitants n'auraient pas transformé la nature parce qu'ils ne travaillaient pas ni ne cultivaient véritablement la terre. C'est une idée qui est extrêmement puissante et qui le fut d'ailleurs dès les débuts de la colonisation britannique de l'autre côté de l'Atlantique. Puisqu'en effet, dès la première moitié du XVIIe siècle, c'est la thèse du vacuum domicilium qui prévaut très largement. Portée par les colons, notamment John Winthrop, fondateur de la colonie puritaine de la baie du Massachusetts, elle postulait que les Indiens ne possédaient pas la terre, puisque, sans habitat dit solide ni clôture, ils ne faisaient au fond que la parcourir, voyez comme des nomades improductifs. Une doctrine d'ailleurs qui n'était pas sans rapport avec la relative pénurie de terres dans l'Angleterre de cette époque. Dans la seconde moitié du siècle, pourtant, en Virginie, en Nouvelle-Angleterre ou en Pennsylvanie, mais aussi chez les Hollandais de la vallée de l'Hudson, les autorités coloniales ont tendu à reconnaître aux autochtones un droit de propriété et se sont efforcées d'acquérir légalement les territoires en éteignant les titres indiens, soit par la signature de traités de cession ou par des guerres qualifiées de justes, ainsi que l'a montré Alan Greer dans un ouvrage tout à fait passionnant intitulé « Property and Dispossession ». Cette figure de l'Indien écologique a ensuite pu être mobilisée et récupérée à des degrés différents dans le cadre des luttes autochtones de la seconde moitié du XXe siècle, à partir d'une image séductrice et pour ne pas dire trompeuse du présent et du passé, popularisée y compris jusque dans certains travaux académiques. C'est donc en 1999 que l'anthropologue américain Shepard Kresh III, lui-même d'origine autochtone, publie The Ecological India, Myth and History. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kresh est lui-même un contemporain de la campagne publicitaire Keep America Beautiful, lui qui rédige à ce moment-là sa thèse sur l'évolution des modes de piégeage à Fort McPherson dans les territoires du Nord-Ouest au Canada, thèse qu'il soutient en 1974 avant de publier deux articles extrêmement importants et qui me semblent sous-estimés et oubliés. L'un en 1976 sur la participation active des Kutchins de l'Est au commerce des fourrures au XIXe siècle, et l'autre sur les maladies, la famine et l'organisation sociale des Athapascans du Nord en 1978 qui nuance très fortement les théories déterministes dominantes sur l'organisation sociale de ce peuple autochtone qui supposait, pour faire vite, que la région subarctique nord-américaine serait, par nature, un environnement hostile, imposant des limites strictes à la taille et à la densité des populations humaines et freinant le développement de l'organisation sociale. Et donc, The Ecological Indian, qui paraît en 1999, va être un véritable pied de nez au tenant de la thèse de l'Indien écologique en harmonie avec la nature, et c'est en ce sens que ce livre est profondément salutaire. L'ouvrage déconstruit ainsi méticuleusement les ressorts de cette figure positive, anhistorique et romantique, sorte de variante contemporaine du mythe du bon sauvage, qui fut porté en son temps par Montaigne, Lahontan ou encore Rousseau, et qui, sous ses apparences bienveillantes, dissimulerait selon lui un effet beaucoup plus pernicieux, consistant à délégitimer cet Indien parce qu'il n'a pas transformé le territoire américain et l'expulsant en quelque sorte en dehors du champ de l'histoire. Ce sont ces différentes tensions que je voudrais interroger aujourd'hui à partir d'une question volontairement provocatrice. L'Indien écologique est-il une fable des Lumières ? Autrement dit, dans quelle mesure l'idée d'une proximité particulière des autochtones avec la nature relève-t-elle d'une construction intellectuelle européenne ? Et comment cette construction a-t-elle malgré tout contribué à rendre visible certains savoirs autochtones sur l'environnement ? Pour répondre à cette question, je reviendrai d'abord sur le livre désormais classique de Shepard Kresh III, The Ecological Indian, et sur les controverses qu'il a suscitées, très nombreuses. Je montrerai ensuite que les critiques adressées à Kresh invitent moins à réhabiliter naïvement la figure de l'Indien écologique qu'à repenser les formes autochtones de réflexivité environnementale. Enfin, j'essaierai de montrer comment, avec de nombreuses ambiguïtés, certains auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, Lahontan, Gédéon de Catalogne ou encore Lafito, ont progressivement contribué à reconnaître la valeur des savoirs autochtones sur les milieux, les plantes ou les animaux, participant ainsi à déplacer les frontières même de ce que les Lumières considéraient comme un savoir légitime. Tout d'abord, donc, la controverse Kresh. Lorsque Kresh publie The Ecological Indian en 1999, son ouvrage suscite immédiatement et d'emblée des débats extraordinairement vigoureux, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'ici le livre est passé relativement sous le silence et sous les écrans radars des historiens. Il faut dire que le livre intervient dans un contexte intellectuel et politique particulier. Depuis plusieurs décennies déjà, la figure de l'Indien écologique s'est imposée fortement dans les milieux écologistes, dans certains courants académiques et dans les mobilisations autochtones nord-américaines. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le livre connaît une réception très mitigée, y compris du point de vue des autochtones qui avaient pu s'emparer de cette figure respectable du passé amérindien. L'idée selon laquelle les peuples autochtones auraient entretenu avec la nature des rapports fondamentalement plus équilibrés que les Européens est alors largement répandue. Et Kresh va donc entreprendre de déconstruire ce topos. Selon lui, les autochtones de l'Amérique du Nord n'auraient été nullement des conservationnistes avant l'heure. Ils auraient, comme le montre le découpage du livre, ils auraient, comme d'autres sociétés humaines, transformé les milieux, surexploité certaines ressources animales et provoqué des perturbations écologiques importantes. L'ouvrage multiplie ainsi les exemples. Disparition des grands mammifères à la fin du Pléistocène, usage massif du feu, surchasse du bison, du daim ou du castor à l'époque coloniale. Crèche soutient ainsi que les sociétés autochtones auraient remarquablement ignoré les concepts de préservation et de conservation tels qu'ils furent élaborés dans le monde euro-américain moderne. Et dans l'introduction du livre, Crèche va examiner les origines de l'idée selon laquelle les Indiens seraient par nature écologiques. Mais hormis deux hommes autochtones, Charles Eastman, auteur Sioux Dakota du 19e siècle, et le saint homme Lakota Black Elk, converti au catholicisme, il faut bien dire que les racines d'un tel mythe sont à chercher du côté d'auteurs occidentaux, le baron de la Hontan, James Fenimore Cooper et Ernest Thomas Seton. Ce n'est que dans l'épilogue du livre que l'auteur s'intéresse aux formes et aux processus d'auto-attribution de l'image par plusieurs autochtones, la plupart apparus après 1970, et le plus souvent dans le contexte de mobilisation politique. Le livre, il me semble, eut le mérite incontestable de rappeler une évidence parfois oubliée. Les sociétés autochtones ne vivaient pas hors de l'histoire, et transformaient elles aussi les environnements qu'elles habitaient. En cela, Crèche s'oppose à la vision romantique de l'autochtone comme simple composante passive d'une nature immuable. Son travail contribue également à rompre avec l'idéologie de la wilderness, cette idée d'une Amérique originellement vierge, à peine travaillée par l'action humaine avant l'arrivée des Européens. Mais, il y a un mais, les difficultés apparaissent, dès lors qu'on examine plus attentivement les catégories mobilisées par Crèche. Car derrière sa critique salutaire du mythe de l'Indien écologique, l'auteur peut tendre parfois à reconduire une définition très occidentale de la rationalité environnementale. La conservation, par exemple, par Crèche, n'est reconnue qu'à condition de prendre la forme d'une gestion explicite, consciente et rationalisée des ressources naturelles. En d'autres termes, Crèche mesure les pratiques autochtones à l'aune de catégories élaborées dans l'Europe moderne et contemporaine. C'est précisément ce point qu'ont souligné plusieurs anthropologues et ethno-historiens des territoires de chasse, notamment Adrian Tanner et Harvey Fate. Adrian Tanner ayant livré une critique au vitriol du livre, peut-être la plus intéressante sur le plan scientifique, car les critiques politiques qui ont accusé notamment Shepard Crèche de racisme me paraissent peut-être quelque peu, indues. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'Harvey Fett ou d'Adrian Tanner, tous deux ont montré que les pratiques de chasse algonquienne reposaient sur des formes élaborées de gestion territoriale et sur une connaissance extrêmement fine des dynamiques animales. Les territoires de chasse familiaux étudiés en leur temps dans les années 1930 par Frank J. Speck, puis par Harvey Fett, par exemple dans l'ethno-écologie des Cree-Waswanipi, n'étaient pas de simples espaces d'exploitation anarchique. Ils faisaient l'objet de règles d'usage, de limitations saisonnières et de formes de contrôle collectif destinées à préserver la reproduction du gibier. Je pense donc ici effectivement aux travaux d'Harvey Fate sur les cris de Waswanipi, situés à environ 400 km au sud-est de la baie de James, pour vous donner une idée de la localisation géographique, permettent d'ailleurs de mieux comprendre ce qui se joue derrière cette question apparemment technique de la conservation. Dans le sillage d'Adrian Tanner, Harvey Fate montre que les territoires de chasse ne relevaient pas simplement d'une logique économique de maximisation des ressources, mais d'un ensemble complexe d'obligations sociales, spirituelles et territoriales. Les familles responsables d'un territoire de chasse devaient veiller à ne pas épuiser certaines ressources animales, sous peine de compromettre les relations entretenues avec les maîtres du gibier, c'est-à-dire les entités spirituelles considérées comme les gardiens des espèces animales et garantes de leur disponibilité pour les humains. Dans cette perspective, et vous le voyez bien, les animaux ne constituaient pas de simples ressources passives mises à disposition des humains. Ils participaient d'un système relationnel dans lequel, la chasse impliquait réciprocité, respect et retenue. Cette dimension est essentielle, car elle révèle les limites d'une approche strictement utilitariste de la conservation. Et Crèche tend implicitement à considérer que seule une volonté explicite de préserver les ressources pour l'avenir peut être qualifiée de conservationniste. Or, les pratiques observées par Fate montrent qu'une régulation environnementale peut parfaitement exister sans passer par les catégories occidentales modernes de la gestion des ressources naturelles. Les interdits rituels, les restrictions territoriales ou les prescriptions relatives au traitement des carcasses d'animaux, on va y revenir, c'est passionnant, vous allez voir, participaient eux aussi d'une forme de régulation écologique. C'est la raison pour laquelle il convient de déplacer le regard vers les formes de réflexivité environnementale des sociétés autochtones. On pourrait évoquer ici un paradoxe plus large de l'historiographie environnementale. Pendant longtemps, les historiens ont refusé, au nom du mythe d'une nature américaine originelle et intacte, ils ont refusé aux sociétés autochtones toute capacité de transformation des milieux. Et puis, à partir des années 80 et 90, les travaux sur les feux de forêt, la chasse ou les modifications anthropiques des paysages ont, au contraire, insisté sur l'ampleur considérable des interventions humaines autochtones dans les écosystèmes nord-américains. Mais ce second mouvement, il me semble, a aussi parfois produit l'effet inverse. À force de vouloir démontrer que les autochtones modifiaient eux aussi les milieux, certains auteurs ont fini par réduire leurs pratiques environnementales à des comportements extractifs, comparables à ceux des sociétés industrielles modernes. Toute la difficulté consiste donc à penser simultanément l'historicité des sociétés autochtones, leur capacité de transformation écologique et la spécificité de certains de leurs rapports au vivant. Et c'est ici que le cas du castor est très intéressant. Dans son ouvrage, et oui, le castor est ma petite lubie en ce moment, Crèche mobilise dans son ouvrage plusieurs témoignages des missionnaires pour affirmer que les autochtones tuaient indistinctement les castors sans considération pour leur renouvellement, et ce, avant même l'apogée du commerce des fourrures, donc dans la première moitié du XVIIe siècle. Il cite par exemple le père Paul le Jeune, qui écrit en 1634 que les sauvages, trouvant une cabane, tuaient tout, grand et petit, mâle et femelle, pas de pitié, c'est le carnage pour les castors. Mais ce type de source mérite d'être contextualisé, déjà parce que les relations des jésuites subissaient de nombreuses réécritures à Rome avant les années 1650. Et par ailleurs, les missionnaires jésuites avaient fort intérêt à insister sur le caractère prétendument désordonné des pratiques cynégétiques autochtones afin de légitimer leur entreprise de sédentarisation et de conversion à l'agriculture et au catholicisme des autochtones. Surtout, d'autres documents de la Nouvelle-France, rapports administratifs, on les a évoqués tout à l'heure un petit peu dans la discussion, rapports administratifs, sources missionnaires, dessinent une réalité beaucoup plus nuancée. Dans mon article récemment paru aux Annales sur la chasse aux castors en Nouvelle-France, j'ai essayé de montrer que les pratiques autochtones variaient considérablement selon les régions, les écosystèmes et les contextes commerciaux. Certaines populations, je pense notamment aux cris de la baie James, qui ont bien été étudiées par l'ethnohistoire des années 80, limitaient volontairement les prises, évitaient de tuer les femelles ou réduisaient la chasse dans certaines zones afin de favoriser le renouvellement des populations animales. Ces pratiques ne relevaient pas nécessairement d'une théorie abstraite de la conservation, mais elles témoignaient néanmoins d'une véritable réflexivité environnementale. Les missionnaires eux-mêmes reconnaissaient parfois cette diversité. Je trouve fascinant ce passage. Au sujet des bisons, Louis-Nicolas opposait ainsi vers 1675 les Illinois et leurs alliés pour qui, voyez, ce serait un crime de tuer plus d'animaux que leur nécessité ne demande, à d'autres nations impliquées dans le commerce des fourrures dont ils attribuaient les excès de chasse à l'avidité des nations policées. Vous voyez, l'avidité des nations policées, on croirait un passage issu du baron de Lahontan. Cette critique des effets moraux et matériels du commerce européen, qui rappelle certains aspects de Lahontan, portait sur des groupes distincts, certes, plutôt que sur une transformation générale des pratiques autochtones, mais elle montre néanmoins que certains observateurs coloniaux associaient déjà surexploitation animale et dynamique du commerce impérial. Les observations de Louis-Nicolas sont d'autant plus intéressantes qu'elles témoignent d'une véritable hésitation intellectuelle au sein du regard missionnaire. D'un côté, le jésuite demeure profondément attaché à une vision hiérarchique des sociétés humaines, dans laquelle les peuples autochtones occupent une position inférieure. Mais de l'autre, son expérience concrète des milieux nord-américains le conduit à reconnaître l'existence de savoirs locaux sophistiqués. Son immense histoire naturelle et son codex canadensis révèlent une attention remarquable aux comportements animaux, aux circulations saisonnières du gibier et aux techniques de chasse et de pêche autochtones, ainsi que l'a montré François-Marc Gagnon. Cette attention empirique transforme progressivement le statut même des savoirs autochtones. Ceux-ci ne sont plus seulement perçus comme des coutumes étranges relevant de l'observation missionnaire, ils deviennent des connaissances utiles à l'histoire naturelle. Le missionnaire dépend des guides autochtones pour circuler dans les forêts, pour identifier certaines espèces, pour comprendre les migrations animales ou les propriétés médicinales des plantes. Une partie importante du savoir environnemental européen sur l'Amérique du Nord, et on y reviendra dans la dernière partie, repose donc sur des médiations autochtones souvent invisibilisées dans les textes. Le cas du castor est particulièrement révélateur. Les Européens découvrent en Amérique du Nord un animal qui est déjà largement chargé d'un imaginaire moral et politique hérité des bestiaires médiévaux. Le castor y apparaît alors comme un animal industrieux, discipliné, presque politique, comme l'a montré Denis Delage dans cet article fascinant. Mais l'expérience nord-américaine va modifier profondément cette représentation. Les missionnaires, les voyageurs, les naturalistes observent les barrages, les huttes, les comportements collectifs du castor à travers les techniques de chasse autochtones elles-mêmes qui sont rapportées à longueur de page par les sources de la Nouvelle-France. Les savoirs amérindiens sur les habitats du castor, sur ses cycles de reproduction ou sur les meilleures périodes de piégeage participent directement à la production européenne d'un savoir naturaliste sur l'animal. La question du castor révèle donc toute l'ambivalence des relations environnementales en Nouvelle-France. D'un côté, le développement du commerce des fourrures intensifie considérablement la pression sur les populations animales. Imaginez qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ce sont pas moins de 200 000 à 400 000 peaux qui traversent l'Atlantique chaque année entre la Nouvelle-France et la France. Alors, castor n'en inclut, puisque pour les castors, on est entre 110 000 et 120 000 pour alimenter les différents marchés européens de la chapellerie. De l'autre, réduire les autochtones à de simples acteurs passifs de cette surexploitation reviendrait, et je rejoins totalement Grégory, à méconnaître la complexité de leur stratégie économique, territoriale et politique. Richard White avait déjà montré dans The Middle Ground que les sociétés algonquiennes ne furent jamais totalement absorbées par les logiques coloniales françaises. Gilles Avard, à son tour, a lui aussi insisté sur le fait que la chasse de subsistance avait longtemps continué de subsister et de structurer les temporalités sociales et économiques autochtones, y compris à l'apogée du commerce des fourrures d'ailleurs. Par ailleurs, les pratiques cynégétiques demeuraient insérées dans des cosmologies spécifiques, dans lesquelles les relations entre humains et animaux reposaient sur des obligations réciproques. Et c'est, il me semble, ce point que Kresch tend à sous-estimer. Dans son interprétation, les dimensions spirituelles des rapports au gibier apparaissent souvent comme des croyances ayant empêché l'émergence d'une véritable conservation. Or, plusieurs anthropologues ont montré au contraire que ces cosmologies pouvaient contribuer à encadrer moralement les pratiques de chasse. Et d'ailleurs, c'est toute la contradiction, la surchasse n'est pas un problème moral pour les autochtones, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le respect des ossements dus aux castors, faites attention, hein, quand on tue un castor, on ne jette surtout pas les ossements aux chiens. Sinon, gare à vous, car l'abondance de la chasse risque d'être sérieusement compromise. Le respect dû aux ossements du castor, chez les Innus par exemple, ou le fait de demander aux animaux l'autorisation d'être tués en s'adressant à l'âme des bêtes, chez de nombreux peuples du subarctique, ne relevait pas simplement d'un symbolisme religieux abstrait. Il participait d'une éthique des relations entre humains et animaux susceptibles de garantir l'abondance du gibier, tout en limitant les maux de la surchasse. Des pratiques qui existent encore, comme l'a très bien montré Charles Stepanov, qui existent encore aujourd'hui hein, chez les Yukagirs de Sibérie, les Inuits et les Ojibwas du Canada, par exemple. En d'autres termes, il s'agit de chasser le maximum d'animaux afin de garantir leur régénération, puisque l'âme des bêtes tuées à l'automne, du moins si les rituels sont scrupuleusement respectés, sont censés se réincarner dans les nouveaux-nés lors du printemps. C'est la raison pour laquelle en fait, la surchasse n'est pas nécessairement un problème éthique et moral pour les populations autochtones, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas soucieuses de garantir la reproduction du gibier. Et c'est ce que j'ai montré dans mon article des Annales, c'est que tout cela c'est quand même très complexe et qu'il faut éviter d'opposer trop facilement ce, voilà, conservation et prédation, etc. Il faut relire, il me semble, nos catégories. Il ne s'agit donc pas, évidemment, de réhabiliter naïvement la figure d'un autochtone écologiste avant l'heure. Les sociétés autochtones ont, elles aussi, transformé les milieux, provoqué des déséquilibres locaux et participé à des dynamiques de surexploitation, incontestablement. Mais l'alternative entre le mythe romantique de l'Indien écologique et celui de l'autochtone prédateur me semble profondément réductrice. Elle reconduit une opposition artificielle entre rationalité et cosmologie, entre gestion et spiritualité, qui empêche de penser la diversité historique des rapports autochtones à l'environnement. C'est ici que les travaux de Christopher Parsons ouvrent, il me semble, des perspectives tout à fait stimulantes. Dans A Not Your New World, Empire and Environment in French Colonial North America, Parsons montre que les savoirs environnementaux produits en Nouvelle-France furent constamment élaborés dans l'interaction avec les milieux américains et avec les populations autochtones qui les habitaient. Le point de départ de Parsons est très simple. Pour les Français du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'Amérique du Nord n'était pas un monde entièrement nouveau. Les colons reconnaissaient dans les paysages laurentiens des espèces végétales familières, les érables, les chênes, les noyers, les vignes sauvages, qui semblaient établir une continuité botanique entre l'ancien et le nouveau monde. Et cette familiarité écologique, d'ailleurs, encourageait l'idée que la Nouvelle-France pouvait être cultivée, domestiquée et finalement assimilée à la France elle-même, pour ne pas dire absorbée totalement. L'un des grands intérêts de l'ouvrage de Parsons est précisément de déplacer l'attention depuis les seuls discours philosophiques vers les pratiques matérielles de la colonisation environnementale. Les jardins de Champlain à Québec, qui sont ici centraux, ne constituent pas simplement des espèces agricoles destinées à nourrir les colons. Ils représentent de véritables laboratoires impériaux. On y expérimente l'acclimatation de plantes européennes, on y transplante des espèces, on y observe les réactions des sols et des climats américains. Ces jardins possèdent également une forte dimension symbolique. Dans l'imaginaire colonial du XVIIe siècle, cultiver la terre revient à manifester une souveraineté sur l'espace. Le jardin devient ainsi la preuve visible de la capacité française à transformer pour le mieux les milieux américains. Et Parsons montre d'ailleurs très bien que cette logique de domestication environnementale s'accompagne d'une entreprise parallèle de domestication des peuples autochtones. Et c'est ainsi d'ailleurs que les missionnaires, et on le voit à longueur de source, établissent constamment des analogies entre la culture des plantes et la culture des âmes. Les colons français reconnaissent donc dans les paysages nord-américains des sapins, des érables, des noyers, des pruniers ou des vignes sauvages. Bien sûr, il ne s'agit pas toujours des mêmes espèces qu'en Europe, mais les ressemblances morphologiques, voyez, entre ces différentes espèces suffisent à encourager l'idée d'une continuité naturelle entre les deux rives de l'Atlantique. Cette continuité apparente va d'ailleurs nourrir un très fort optimisme colonial, puisque après tout, si les plantes américaines ressemblent aux plantes européennes, alors les environnements américains, par conséquent, peuvent eux aussi être transformés, améliorés et cultivés selon les normes françaises. Les textes de Champlain ou de Marc Lescarbot témoignent constamment de cette volonté de lire les paysages américains à travers des catégories européennes familières. Le vocabulaire de la culture joue donc un rôle essentiel ici. Comme le montre Parsons, le terme conserve alors une dimension fortement agricole. Cultiver la terre, transformer les plantes sauvages, convertir les peuples autochtones. Toutes ces opérations relèvent d'une même logique coloniale de domestication. L'environnement américain apparaît comme un espace inachevé, qu'il conviendrait de perfectionner par l'action française. Mais, parce qu'il y a encore un mais, cette entreprise de domestication se heurte constamment à une difficulté fondamentale. Les colons dépendent largement des savoirs autochtones pour comprendre les milieux nord-américains. Les missionnaires, voyageurs et naturalistes apprennent des autochtones à identifier certaines plantes, à se déplacer dans les forêts, à connaître les cycles saisonniers ou les comportements animaux. Et les savoirs autochtones jouent dans ce processus un rôle absolument décisif. Les Français apprennent rapidement quelles plantes peuvent être consommées, quelles espèces résistent aux hivers laurentiens, ou quelles variétés possèdent des propriétés médicinales. Les usages autochtones du maïs, des courges, du tabac, ou encore de certaines écorces animales. Pensez par exemple à l'aneda, qui a permis de sauver une partie de l'équipage de Cartier au XVIe siècle, suscite une curiosité croissante parmi les explorateurs, puis les missionnaires ou les administrateurs coloniaux. C'est dans ce contexte qu'émerge progressivement une reconnaissance ambiguë des savoirs autochtones. Ambiguë parce qu'elle reste, au moins dans un premier temps, relativement asymétrique. Les Européens continuent généralement de considérer les autochtones comme des peuples dits « sauvages », supposément incapables de développer une véritable science de la nature. Pourtant, dans la pratique, les savoirs environnementaux autochtones deviennent indispensables à l'entreprise coloniale elle-même. En voulant démontrer que les terres américaines demeuraient sauvages, faute d'avoir été correctement cultivées, les colons tentent à effacer le travail environnemental accompli depuis des siècles par les populations autochtones. Pourtant, les paysages que découvrent Champlain ou encore Sagard ne sont nullement vierges. Les clairières, les zones de culture du maïs, les espaces ouverts entretenus par le feu, ou encore certaines concentrations végétales, à l'instar des forêts, résultent d'interventions humaines fort anciennes. On pourrait insister sur un autre point fondamental. Les Français interprètent souvent comme naturelles des configurations écologiques qui sont en réalité le produit de pratiques autochtones. Ce phénomène d'effacement est central dans la lecture environnementale des lieux que font les auteurs coloniaux. Les savoirs et les techniques autochtones deviennent invisibles précisément parce qu'elles ont contribué à produire des paysages que les Européens considèrent ensuite comme spontanément naturels. Cette tension apparaît très nettement chez le baron de La Hontan. Dans ses dialogues avec un sauvage, publié au début du XVIIIe siècle, l'auteur oppose fréquemment les excès de la société européenne à la modération supposée des peuples amérindiens. Mais La Hontan ne se contente pas d'utiliser l'autochtone comme simple figure critique. Il reconnaît aussi la valeur empirique des connaissances amérindiennes sur les milieux, la chasse ou les plantes médicinales. Cette reconnaissance reste évidemment prise en étau dans les ambiguïtés du regard colonial. Les savoirs autochtones sont valorisés parce qu'ils semblent plus proches de la nature, plus immédiats, moins corrompus par les artifices de la civilisation européenne. Autrement dit, la réhabilitation des connaissances autochtones repose souvent sur les mêmes catégories qui contribuent à maintenir les autochtones dans une position d'altérité radicale. C'est pourquoi les textes de La Hontan occupent à cet égard une place tout à fait singulière. Ces dialogues avec le Huron Adario ne relèvent évidemment pas d'une transcription fidèle de la parole autochtone. Et d'ailleurs, je suis au regret de vous l'annoncer, on n'y accédera jamais pour le XVIIe, XVIIIe siècle, puisque les autochtones n'ont pas laissé d'archives. Et qu'on ne peut pas faire cette histoire à parts égales que fait Romain Bertrand pour les sociétés malaises, puisque ces sociétés sont des sociétés sans écrit, qui n'ont pas laissé de documentation. Malgré tout, les écrits de La Hontan participent pleinement de la tradition européenne de la critique de la civilisation par le détour de l'altérité. Mais ils révèlent aussi un déplacement important du regard européen sur les savoirs autochtones. Car Adario ne se contente pas d'opposer une morale naturelle à la corruption européenne, il critique également les formes européennes d'appropriation de la nature. La Hontan met dans sa bouche des réflexions sur l'avidité, l'accumulation des richesses et les désordres provoqués par la recherche illimitée du profit. Dans ce cadre, les pratiques autochtones apparaissent moins comme l'expression d'une innocence primitive que comme le produit d'un autre rapport social et matériel au monde vivant. Ce déplacement est essentiel car il introduit une forme de relativisme environnemental dans la pensée européenne des Lumières. Les manières d'habiter les milieux, de chasser, de cultiver ou d'utiliser des plantes cessent progressivement d'être pensées selon une hiérarchie unique opposant sauvagerie et civilisation. Elles deviennent comparables, discutables et parfois même admirables. C'est le cas aussi d'une autre catégorie d'acteurs. C'est intéressant de voir aussi des individus qui possèdent un statut différent au sein de la Nouvelle-France. Prenons le cas de Gédéon de Catalogne. Alors lui, il est ingénieur, cartographe et observateur très attentif des milieux coloniaux, manifestant une réelle curiosité pour les techniques autochtones d'adaptation aux environnements nord-américains. Ces descriptions, d'ailleurs, témoignent d'une attention constante non seulement à la topographie, mais aux usages des plantes, aux déplacements saisonniers ou aux contraintes climatiques. Il publie d'ailleurs un mémoire sur la flore canadienne où il reconnaît ouvertement les limites de ses propres connaissances. On en revient toujours à ce discours de l'incertitude. Et les domaines dans lesquels il estimait que les savoirs autochtones pouvaient offrir des perspectives insoupçonnées. Catalogne avait abandonné toute prétention selon laquelle les plantes américaines n'étaient que des versions sauvages et ou dégradées d'espèces européennes familières. Il relève par exemple l'autochtonie et la présence des bluets et des latoka, myrtilles et canneberges respectivement, qui figuraient parmi les premières plantes indigènes décrites par les explorateurs européens dans le nord de l'Amérique du Nord. Le père Lafito constitue enfin un dernier exemple éloquent de cette ambivalence de l'intégration des savoirs autochtones. Joseph-François Lafito, jésuite installé à la mission de Kanawake près de Montréal, affirme, rien de moins que cela, au début du XVIIIe siècle, avoir découvert le ginseng en Nouvelle-France. Cette découverte du ginseng constitue un moment important dans l'histoire des savoirs coloniaux, car elle met en lumière le rôle essentiel des connaissances autochtones dans la production du savoir scientifique. Contrairement à de nombreux auteurs coloniaux qui dévalorisaient les savoirs des peuples autochtones, Lafito reconnaît au contraire que leur connaissance fine des plantes et des environnements est indispensable. Il cherche ainsi à démontrer que le ginseng canadien est apparenté au ginseng asiatique, soulignant ainsi l'existence de continuité biologique entre les continents plutôt que des différences radicales. Cette thèse s'inscrit d'ailleurs dans un débat beaucoup plus large, celui de la nouveauté de la Nouvelle-France et sur les personnes habilitées à produire un savoir légitime sur le Nouveau Monde. Pour Lafito, les connaissances locales détenues par les autochtones constituent une ressource précieuse pour comprendre les environnements nord-américains. Et son travail s'appuie d'ailleurs sur un réseau de circulation absolument exceptionnel qui relie la Chine, l'Europe et l'Amérique. Inspiré par les observations du père Jartou en Chine, il poursuit ses recherches à Kanawake en mobilisant à la fois les méthodes savantes européennes et les connaissances autochtones. D'ailleurs, les femmes mohawks occupent une place centrale dans ce processus. Lafito explique qu'il s'est tourné vers elle pour localiser la plante et confirmer son identification. Ces femmes, expertes de leur environnement, lui fournissent des informations essentielles à sa découverte. Toutefois, sa relation au savoir autochtone demeure tout de même très ambivalente. Parce que s'il reconnaît leur contribution et rend hommage d'ailleurs à certaines observatrices locales, il tend aussi à s'auto-attribuer le mérite intellectuel principal de la découverte. Et vous voyez que cette tension est très intéressante aussi. Ainsi, la question du ginseng est indissociable de celle des savoirs autochtones. À travers cette plante, Lafito montre que les connaissances détenues par les peuples autochtones, et particulièrement les femmes, participent pleinement à la construction des savoirs scientifiques coloniaux. Les similitudes observées entre l'Asie et l'Amérique servent alors à défendre l'idée d'une histoire humaine commune, fondée sur d'anciennes migrations et sur l'unité de l'humanité, et on sait à quel point cette question de l'unité du genre humain traverse la science des Lumières. Les savoirs environnementaux autochtones commencent ainsi à circuler dans l'espace savant européen. Ils alimentent les récits de voyage, les histoires naturelles, les correspondances littéraires, les correspondances missionnaires également et les réflexions philosophiques sur la nature humaine. Pourtant, cette circulation s'accompagne parfois ou souvent d'une invisibilisation des conditions même de production de ces savoirs. Les naturalistes européens apparaissent comme les véritables auteurs de connaissances qui reposent largement, pourtant, sur des médiations autochtones. Il me semble que c'est précisément là que se joue une partie importante de la question posée par ce colloque. À qui appartient la science des Lumières ? Car l'histoire environnementale de la Nouvelle-France montre que les savoirs naturalistes européens ne se sont pas constitués indépendamment des sociétés autochtones. Ils se sont élaborés dans des espaces de contact, de traduction et d'interaction où les connaissances autochtones jouaient un rôle central. Je voudrais terminer cette intervention en revenant brièvement à notre question initiale. L'Indien écologique est-il une fable des Lumières ? On pourrait répondre oui, dans une certaine mesure. La figure de l'autochtone vivant en parfaite harmonie avec la nature relève bien d'une construction intellectuelle européenne, profondément liée à l'histoire coloniale des représentations de l'altérité. Des philosophes des Lumières jusqu'au mouvement écologiste contemporain, cette figure a souvent servi de miroir critique à l'Occident lui-même. Mais réduire cette histoire à une simple invention européenne serait tout aussi problématique, car derrière les projections idéologiques, derrière les fantasmes du bon sauvage ou de la wilderness, se trouvaient aussi des savoirs environnementaux réels, des pratiques de gestion des milieux, des connaissances fines des plantes, des animaux et des territoires de chasse. Le problème de Kretsch n'est pas donc d'avoir sapé le mythe de l'Indien écologique, il est plutôt d'avoir opposé parfois trop radicalement savoir scientifique et cosmologie autochtone, comme si les formes légitimes de réflexivité environnementale ne pouvaient émerger qu'au sein des traditions européennes de la conservation. Or, l'histoire de la Nouvelle-France révèle au contraire des formes multiples de pensée et de réflexivité environnementale, inscrites dans des cosmologies différentes, mais néanmoins attentives aux dynamiques du vivant. L'enjeu n'est donc peut-être pas de savoir si les autochtones furent ou non des écologistes avant l'heure. Cette question, je vous l'avoue, ne m'intéresse pas du tout. Et une telle formulation demeure, de toute façon, beaucoup trop prisonnière des catégories contemporaines. Il s'agit plutôt de comprendre comment les sociétés autochtones ont développé des savoirs situés sur les environnements qu'elles habitaient et comment ces savoirs ont participé, souvent de manière invisible, à la formation des sciences modernes de la nature. À cet égard, l'Indien écologique n'est ni entièrement un mythe, ni une réalité intemporelle. Il est une figure historique produite par les interactions complexes entre colonisation, altérité et savoir environnementaux. Et c'est précisément parce qu'elle se situe à l'intersection de ces différents registres qu'elle continue, aujourd'hui encore, à susciter des débats aussi importants. Je vous remercie beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.